Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec des nanas inspirantes, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans la description, tu trouveras différents liens qui vont t'aider soit à éviter la phase de l'effondrement, soit à te reconstruire après un burn-out à travers des habitudes self-care. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, je vais lire l'avis d'Anaïs qui dit un super appui. Ce podcast est un super soutien pour celles et ceux qui cherchent à comprendre le burn-in ou le burn-out et y trouver de bons conseils pour s'aider soi-même ou un proche. Le plus vraiment appréciable, c'est l'aspect hyper positif et good vibes. Pas du tout un podcast déprimant, bien au contraire. Merci Anaïs pour ton avis. Écoute, il résume très très bien le podcast et son utilité et surtout son énergie. Donc merci beaucoup. Si toi aussi tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles, ça me permet d'être bien référencé et de continuer cette aventure. Alors aujourd'hui, l'épisode se fait chez Nadia, qui nous a invité chez elle pour qu'on puisse discuter. Donc Nadia, elle a un podcast sur la parentalité, grand défi et tout petit. Je t'encourage à aller l'écouter si tu es concerné. Et on va parler donc burn-out parental et burn-out professionnel avec une jeune et une plutôt âgée. Quand je dis âgée, je me comprends, mais disons qu'elle a vécu son burn-out dans un contexte bien différent d'une autre, et ça donne un autre point de vue, et ça nous permet de nous dire, dans notre malheur, on a quand même un peu de chance, parce qu'aujourd'hui on peut en parler et il y a tellement de solutions par rapport à avant. Je t'en dis pas plus et je te souhaite une très bonne écoute.
De Abondance, et Abondance, c'est une marque qui propose de la petite décoration florale faite à base d'objets de seconde main et de fleurs séchées sourcées en local, et également je propose de la formation à travers des ateliers et des conférences pour sensibiliser à la transition écologique. Donc les ateliers, ce sera principalement de l'art floral pour redonner une seconde vie à des objets avec de la fleur séchée. Et les conférences et talks en plus petit comité, c'est pour parler transition écologique, comment est-ce qu'on s'y met, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on performe pour se rapprocher d'un mode de vie plus naturel.
Sans devenir parano et...
C'est ça.
Et dépressif. Et du coup, Jamila.
Alors, je m'appelle Jamila Essaoui, je suis sophrologue, hypnothérapeute. Alors, c'est pas de la psychologie, on n'est pas non plus trop dans le coaching, on est plutôt dans la technique en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est une méthode, on va dire, psychocorporelle quand même. Bon, on est quand même dans le corps, on va parler un petit peu quand même dans les séances, mais on est dans la transmission de technique. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'à l'intérieur, ça bouge. Et que ça devienne plus résistant pour gérer les événements, le stress, etc. Donc on est beaucoup dans la physiologie, mais la physiologie, ça appelle l'apaisement, et l'apaisement, ça appelle la responsabilité, la liberté, le choix. Vous voyez ? Donc voilà, les buts en fait sont un peu plus loin que la relaxation, etc. Et quand quelqu'un vous dit vivez l'instant présent, ça veut dire arrête de t'inquiéter pour le futur, et le passé c'est passé, d'accord? Donc essaye de vivre les moments que tu vis là. Si tu vas avec cette mentalité là, tu profites de ton café avec tes copines là. Tu profites de tes parents qui vont arriver, de ta petite fille qui va te prendre dans tes bras, etc. Donc tu vas pas penser à je lui ai pas donné ceci, ou qu'est-ce que je vais lui faire plus tard, etc. Donc voilà, c'est ça l'instant présent. Donc on apprend à faire ça. On apprend à vivre le moment.
Soit quand tu manges, soit quand tu t'occupes de ton enfant, au lieu de te concentrer sur ce que tu es en train de faire là, maintenant, donc manger, la texture, le goût, l'odeur...
Ça, c'est la pleine conscience.
Voilà. Eh bien, t'es là à te rappeler ce moment hostile, comme je dis, ce moment oui. négatif que t'as vécu et qui est toujours dans ta tête et qui tourne, cogitation en fait.
Exactement.
Donc ne pas vivre en tout cas le temps présent, c'est cogiter pendant ce que tu fais au temps T.
Alors,
tu
oui.
revis soit le passé, soit t'angoisse et t'anticipe le futur.
Exactement.
Et vivre le temps présent ou la pleine conscience.
C'est tout simplement ça.
Tu restes là.
C'est tout simplement ça. C'est des grands mots, mais des choses, c'est très simple. Et si on peut faire émerger plus d'estime de soi. L'estime de soi, c'est simplement s'aimer, tout bêtement.
C'est un ensemble. Hein. Mm-hmm. La confiance en soi fait partie de l'estime de soi.
Exactement.
C'est-à-dire quand tu travailles ton estime de soi, tu travailles ton image, l'amour que tu as envers toi, ta confiance en tes compétences, ta connaissance de toi-même.
La connaissance.
De soi, c'est toi, quoi, c'est ta vie, c'est très très dommage et préjudiciable de vivre avec une estime de soi dans les baskets. Tu peux pas avancer.
Tu peux pas avancer. Mmh. La connaissance de soi, c'est quoi en fait? En sophro, on parle de valeur. Qu'est-ce que c'est une valeur? C'est pas non plus c'est pas un truc 15 euros, 100 euros. Les valeurs, en fait, c'est les grands on va dire les grandes valeurs avec lesquelles tu veux diriger ta vie, quoi. Alors c'est pas forcément celle que avec elle on t'a éduqué, peut-être, mais pas forcément. Je veux dire, dans une communauté donnée, voilà, on a de l'éducation, etc. Peut-être, mais pas forcément. Mais c'est pas forcément avec des valeurs avec lesquelles, t'as fait tes études, etc., t'as appris des choses, etc. Ça peut être des choses que tu vas mettre en place. Tu vas définir, mettre en place, et tu vas mener ta vie avec ce genre de valeurs, et ça peut changer, etc. Exemple de valeur, c'est l'amour des autres. Je veux dire, quand vous faites ce que vous faites, si vous n'aimiez pas les gens, c'est pas possible de faire ça. Tu pourrais pas discuter avec, même si t'adores l'écologie, voilà, tu dis, oh non, mais attends, je vais coltiner tout le monde là. T'aurais jamais fait. Oh mon Dieu, les gens, quelle angoisse! Quelle angoisse! Je peux pas faire ça. Si t'avais pas cette valeur-là, vous l'avez tous en fait, mais vous l'avez. Voilà, c'est comme ça, c'est là. Une des valeurs, une autre valeur, c'est la liberté, par exemple. Je dis la liberté. Encore un mot à la mode. Je sais que tu vas me flageller, mais c'est pas pop-up, je vais à Ibiza et tout. C'est pas ça, la liberté. Bien plus profond que ça. C'est vraiment.
C'est déjà les subjectives et personnelles.
Exactement.
À chaque individu.
Puis elle s'arrête quand même.
Il y a autant de
certaines choses
que de personnes.
Et elle a une limite, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a pu nous dire. Elle a une limite. Et puis, il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas vivre en étant dirigées dans leur travail. À force de se connaître, de se consolider à l'intérieur, on débroussaille l'intérieur. Et c'est là qu'on vient à la connaissance de soi. Quand on se connaît, on sait ce pourquoi et avec quelle valeur je vais vivre. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire qu'avec ce que je veux, je vais faire ma vie.
C'est ce qu'on appelle
ça, le but de la sophro.
Et être en phase avec soi. Et du coup, je renvoie celle qui nous écoute à un épisode qui s'appelle « Comment être aligné avec ses valeurs ».
Moi, du coup, je m'appelle Nadia, j'ai 2 enfants. Un garçon de 3 ans et demi et une petite fille qui a eu 1 an hier. Et on a vécu pas mal de changements. Fin 2019, on est arrivé dans cette belle région du Nord, on était à Nantes avant. Et on a eu un autre déménagement parce qu'on a acheté cette maison. Il y a eu l'arrivée de Malia, ma petite fille. Et mon fils a eu sa première rentrée en septembre 2020. Donc ça fait beaucoup de changements pour lui. Lui qui était très calme, doux, à l'école, il est tout le contraire. Il tape, il est devenu presque insolent. Enfin, j'ai quand même vécu pas mal de difficultés, même s'il y a un peu de mieux. Et j'ai cherché en fait... J'ai cherché l'expérience d'autres parents qui auraient connu les mêmes difficultés sans trouver, parce que forcément, moi, je suis arrivée dans une région où je connais personne.
Oui.
J'ai cherché du coup dans les podcasts et j'ai pas trouvé. Donc en fait, il y a beaucoup de podcasts sur la parentalité, mais on interview des professionnels. Donc, le professionnel va donner
des conseils.
Voilà,
ça reste un truc extérieur. Quand
voilà.
Même.
Ouais. Moi, je me retrouvais pas forcément, donc je voulais vraiment avoir l'expérience des parents. Déjà, ça a deux buts. Déjà, parler des problèmes, parce que beaucoup de parents peuvent en avoir honte. Donc déjà, ça incite à en parler.
Je suis passée par là,
pas
moi.
Seule.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, bah, les autres, ceux qui écoutent, ils peuvent se dire « Ah ouais, c'est vrai, je me reconnais, je ne suis pas seule, je peux peut-être demander de l'aide. » Parce qu'en fait, quand on demande des rendez-vous auprès des professionnels, bah, on attend souvent deux.
J'aurais aimé te rencontrer à 10 ans. Bon, comme mon fils. Oh là là, bah, c'est l'origine de mon surmenage.
Voilà, donc il y a deux objectifs, à la fois libérer la parole des parents et décomplexer ceux qui vivent les mêmes choses. Et puis voilà, peut-être qu'un jour je tomberai sur un parent qui a connu aussi les mêmes difficultés que moi.
Oh, mais il y en a, oh là là. Bah, la preuve, moi, bon, il y a 10 ans, quoi, on va dire. Oui, il y en a. Oh, c'est terrible, oui.
Ouais, j'ai l'impression que dans beaucoup de familles, les moments de grands changements, c'est aussi des moments qui révèlent des facettes de la personnalité des enfants qu'on n'a jamais vues. Enfin, moi, je ne suis pas parent, mais on a beaucoup déménagé quand j'étais petite. Et je me souviens que le dernier gros déménagement qu'on a fait, donc on habitait dans le nord, et nous on est allé à Nantes pour le coup. Et quand on est arrivé à Nantes, mes parents ont fait sauter une classe à mon frère au passage. Donc il est arrivé en CP au lieu de faire sa rentrée en maternelle, enfin en grande maternelle. Et ça a été la cata absolue en fait, parce que du coup il y avait un gap de maturité qui était un truc de malade, et puis il fallait qu'il s'adapte à une nouvelle école, à une nouvelle maison, à une nouvelle vie, enfin. Et en fait il est devenu ingérable à l'école, pareil, pas du tout à la maison. Enfin, moi en tant que petite fille, je me souviens pas d'avoir vu un changement sur mon frère à cette époque là mais je savais, de ce que disaient mes parents, et moi je l'entendais même en tant que petite fille, qu'à l'école c'était compliqué.
Et ça, tu sais combien de temps ça a duré pour lui?
Ah bah en fait
jusqu'à aujourd'hui.
Tom,
jusqu'à 24 ans.
Tu sais quoi?
Non, mais Tom, je suis témoin, j'ai un autre garçon comme ça aussi.
Tom, si tu écoutes ce podcast, désolé, j'étale un peu ta vie, mais ça a été très long et il a fallu qu'il trouve sa place, et sa place il l'a trouvé là il y a quelques années, parce qu'il a découvert le métier pour lequel il était fait, et ça fait du bien de le voir heureux. Mais Tom, la scolarité, ça a été une peine, mais
chaotique.
Ouais, non, franchement, tout le monde en a ramé, les parents, les frères et sœurs, et puis lui, pour lui c'était terrible. Donc non, ça peut durer très longtemps.
Il était pas
aligné. Ouais, c'est ça, encore une fois, il a trouvé son famille qui
gagne. Et puis pourtant, mes parents lui ont fait voir des psys, des trucs, des bidules. Ils ont vu absolument tous les spécialistes possibles, imaginables. Et ça, ils trouvaient pas la manière d'aller mieux, en fait. Ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps.
Et du coup, toi, ton surmenage était plutôt professionnel.
Ouais. Moi, mon surmenage, il a été professionnel. En fait, avant, je bossais dans la communication. Et je crois que j'ai découvert cette vocation à 13 ans, donc j'étais très jeune. Et en fait, pendant mes études, j'ai fait 3 ans d'alternance. Et souvent, ça se passait pas très bien. Mais tous les ans, je changeais. Donc je me disais, c'est pas grave, la prochaine entreprise, ça ira mieux. Mes prochaines missions, ça ira mieux. Et puis, j'ai quand même eu une année super dans le secteur du management, avec deux manageuses géniales. Et après, je suis arrivée au moment du CDI, où tu restes plus d'un an dans une boîte, et en fait ça n'allait pas non plus, et du coup je me suis dit, bon, il y a un moment, c'est peut-être pas que la faute des autres, faut peut-être que je me remette un peu en question, est-ce que c'est vraiment ma place ici? Et effectivement non, c'était pas ma place, mais honnêtement, le surmenage, je l'ai vécu pleine balle, ça a été en termes d'émotions très très compliqué. Mais je me suis rendu compte que ça avait été un surmenage pas mal de temps après. Je pense que j'ai eu besoin de sortir la tête de l'eau pour regarder et me dire, oh punaise, ça fait des mois que j'étais dans cet état-là, et même moi je le savais pas, quoi.
Ah bah généralement ça traîne des semaines et des mois, et oui, on s'en rend pas compte, sinon on s'arrêterait.
Ouais.
Non, c'est clair, quand tu te rends compte que tu viens de faire un burn-out, c'est que l'histoire elle est longue.
Ouais. En fait, c'est quand j'ai commencé à être heureuse au quotidien, je me suis dit, eh, mais en fait c'est génial ça.
C'est un super concept.
Franchement, j'aime bien être dans cet état-là, c'est cool, je ne veux pas changer de situation. Et en fait, ouais, c'est quand tu te rends compte du maintenant et de l'avant, ou de l'après et de l'avant, c'est là que tu te dis, ouais, en fait c'était terrible ce que j'étais en train de vivre, et maintenant que j'ai la solution, c'est cool. Et il faut continuer vers ça.
Et comment c'était la transition? Sur quoi tu t'es appuyé justement pour passer, pour sortir la tête de l'eau et te dire, ah, je suis bien, je suis heureuse?
Alors déjà, moi, le premier confinement, il a été assez salvateur pour moi, parce que ça m'a permis de faire une de faire un stop et puis de me retrouver un peu avec moi-même, de me dire que effectivement il y avait un truc qui n'allait pas. Alors étant un peu aware sur tous les sujets de développement perso, tout ça, je me suis dit allez vas-y, je vais faire mon ikigai et tout. Sauf que en fait bon bah j'y arrivais pas trop toute seule et puis du coup j'ai un peu laissé tomber. Et en fait, j'ai vécu une expérience perso où je me suis dit bon bah là maintenant il faut que je me fasse aider. Donc du coup j'ai vu une psychologue initialement pour plutôt des problématiques personnelles. Et en fait, le travail qu'on a fait ensemble et le travail que je peux mener avec elle a fait bouger beaucoup beaucoup de choses en moi. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit stop en fait. Je bosse sur moi, je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai un bon entourage, j'ai un mode de vie plutôt sympa et pourtant ça va pas, donc ça veut dire qu'il y a encore un truc à changer. Et du coup là je me suis dit bon bah ça veut dire que c'est le pro, je voulais pas l'admettre parce que mine de rien j'avais fait 5 ans d'études dans la com, ouais. Je pensais que c'était ma vie, que j'allais faire toute ma carrière là-dedans. C'était compliqué de se dire qu'au final bah tout ça en fait non, c'était pas moi. Et à partir du moment où j'ai lâché ce truc, où j'ai admis que ces 5 années d'études allait me resservir mais que j'allais pas en faire ma vie, bah à partir du moment où ouais, j'ai pris conscience de ça, là c'est allé assez rapidement. J'ai un peu hop shooté dans la fourmilière et puis à partir du moment où tu bouges un truc, tu peux pas t'arrêter en fait. C'est comme un effet boule de neige,
c'est ce qu'on dit, c'est toujours le premier pas qui est difficile.
Ouais.
C'est toujours la prise de conscience qui est difficile et c'est toujours le moment où tu dis ouais c'est bon là. Faut que ça change là.
Ouais, en fait, c'est ça.
Je suis décidée, faut que ça change. C'est toujours cette étape qui est difficile. Une fois que t'es lancée dedans, encore une fois, c'est une question de focus. Hein. Encore une fois, si tu te mets comme objectif d'aller mieux, ton cerveau, il va voir que les choses qui vont te permettre d'aller mieux et ça va aller 15 000 fois plus vite. Quoi.
Après, il y a eu aussi des étapes compliquées parce que, mine de rien, j'étais en CDI et il y a un moment, il a fallu que je trouve la manière de quitter mon entreprise pour que ce soit ok pour tout le monde, parce que même si moi j'allais pas bien, fallait que ce soit ok pour mon entreprise aussi, parce que je m'entendais bien avec mes patrons, donc il y avait pas de raison que je me barre et que ça se finisse mal, pas du tout. Donc du coup cette étape-là était compliquée parce qu'on essayait de voilà, eux ils avaient leurs intérêts, moi j'avais mes intérêts, mais on voulait pas être désagréables les uns avec les autres, donc cette période a été aussi un peu bancale. Mais on a fait de notre mieux et puis au final maintenant voilà, on a eu fait mon pot de départ en janvier, ouais, tout n'est pas rose, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu sens le déclic, c'est compliqué déjà de faire marche arrière. Et en plus tout va beaucoup plus vite et tout prend sens en fait, et le fait de prendre sens, ça c'est quelque chose que je vis pleinement depuis quelques mois et ça fait du bien.
Et ça se voit.
L'alignement, c'est ça.
Du coup, c'est chouette. Je sais pas si c'est chouette, mais en tout cas, c'est bien parce qu'autour de la table, il y a ce fameux surmenage professionnel et ici, il y a plutôt du surmenage parental.
Parental, ouais.
Et il y en a une qui date un peu plus, ouais. Mais Nadia, elle est plutôt dedans.
T'as encore dedans.
Et Jamila, donc, c'est de l'histoire ancienne, toi ?
Bah, l'histoire ancienne, mais c'est... Il est toujours particulier, mon garçon, mais il est, bon, il est ce qu'il est, mais il est, c'est beaucoup plus gérable, on va dire, et plus calme, etc. Ces temps-ci, j'en parle plus, je sais pas pourquoi, mais j'en parlais jamais, en fait, j'en parlais jamais. Sauf les personnes qui me connaissent bien, les amis proches, qui ont vu les crises de 0 à 4-5 ans. J'ai peur de tout.
On va perdre un adieu. Elle va s'effondrer.
Après, il y a eu quelque chose d'ordre personnel. J'ai déménagé, etc. Je suis venue à Lille alors qu'on était là. On va dire qu'il voyait moins son père. Après j'ai quand même filé à son père et tout. Ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il y a eu un moment comme ça. Et il y a eu quelque chose. Après, je ne veux pas culpabiliser. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je sais que les changements sont difficiles à gérer pour les enfants. C'est comme le monde qui s'écroule pour eux.
Ouais,
quoi. C'est...
Et là,
il faut qu'ils s'adaptent, etc.
Pour l'adulte, c'est compliqué. Alors, tu imagines pour un gamin qui ne comprend pas tout ce qui se passe.
Les changements sont difficiles. Voilà. Tu te poses plein de questions. Hein. Déjà, tu es dans une fatigue émotionnelle incroyable. Quoi. Et puis, tu te poses des questions. Tu te poses plein de questions. Puis, tous les matins, c'est... Franchement, j'ai vécu des terreurs de soir. Est-ce que tu sais ce que c'est,
les terreurs de nuit
De nuit. Terreurs de nuit. C'est-à-dire, quand il est... Non. Quand il était petit bébé encore, jusqu'à un an et quelques, on va dire, il pleurait énormément, bien sûr, il était toujours agité. Quand la nuit arrivait, je savais que j'allais être toute seule, avec lui. Et j'avais peur. J'avais peur de lui.
Tu savais pas, en fait, comment ça allait se tourner.
Mon Dieu,
j'avais
peur de
lui. Tu savais pas quelle sauce t'allais être déguisée.
Voilà. Moi, j'étais victime de mon stress, de ce changement, etc. Et lui, ça devait communiquer avec lui, quoi.
C'est pas ça devait, c'est ça communiquer.
Ça
communiquer.
J'appréhendais tout. Je vais te dire. J'ai pris 100% le forfait complet. Quand j'y pense. Et je rigole maintenant, mais je pleurais à l'époque. Hein. Et ben, en fait, tout était problématique. La nourriture. Ça criait. Quand ils ont un an, deux ans, qu'ils commencent à s'habiller tout seuls, il veut choisir. En fait, il faut faire des stratégies. Il faut mettre deux, trois habits. Et tu lui donnes l'impression qu'il choisit. Le petit-déj. Il faut mettre deux petits-déj. Comme ça, il a l'impression de choisir.
Non, mais
c'est de la folie, c'est de la folie. Et alors, quand j'ai décidé de partir chez des amis, donc dans le sud, et c'est là qu'elles ont compris, les copines, quoi. Ça va, vous avez compris? On sort, on va voir le pont du Gard, là, à Nîmes. Punaise, le matin, j'en souviendrai toute ma vie. Alors, le père, il était terrorisé aussi. Du coup, j'avais pas
d'aide, je le regardais comme ça, je me disais, ah, donc toi aussi, ok.
On est pas dans la merde. Et j'ai perdu 8 kilos, je me rappelle. 8 kilos en je sais pas combien de temps.
Et toi, tu réagissais comment au jour le jour? T'étais plutôt bienveillante ou t'étais dans la.
Bah, je sais, mais en fait, je vais t'expliquer. J'étais des fois prostrée. C'était comme ça. Alors, on peut pas voir la tête que j'ai, mais bon, faut imaginer. J'étais prostrée des fois. Alors, je m'énervais aussi, mais je m'énervais plus sur les autres. Donc, j'ai compris que je leur ai fait aussi vivre des choses, voilà. Et lui, la dernière année, on était là-bas, voilà. Mes enfants, ils étaient au collège, lycée, imagine, tu vois. Et donc, la cantine, c'est quand on est une maman perfectionniste, n'est-ce pas? Tout le monde vient manger à la maison. T'es comme une dingue, en fait, t'es chef d'entreprise. Tu pars à chercher tout le monde, tout le monde revient, et tu les fais manger, t'as tout préparé avant, équilibré, tac, tac, tac. Tu les fais tous manger, puis en fait, t'as la sono, je l'appelais la sono. Il était là, il avait 3 ans. Oh, il criait tout le temps. Et les gamins, ils mangeaient comme ça, dans le bruit. Et puis, je leur ai fait subir ça. Alors
que... Puis, je pense qu'il y a, enfin, en termes de perception de ta propre identité, c'est hyper compliqué quand tu ne corresponds pas au schéma. En gros, on te dit, mais tu es bête en fait, tu es débile, tu ne sais pas te tenir à carreau, tu ne sais pas faire ceci. Ouais. Donc en fait, toi, tu vas faire un CAP menuiserie. Ouais. Et puis encore, là, on renvoie, mais c'est un autre sujet. Est-ce que être manuel, ça veut dire être bête?
Ouais,
non. Il y a une vraie problématique, mais de par lequel aussi, sens là, on oui. prend. Moi, je trouve que l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est. Ouais, il y a des manières dingue. Différentes d'apprendre et c'est hyper important de comprendre son propre mode de fonctionnement. On a tous un mode d'emploi.
C'est la méthode Gardner. Hein. Bah après, encore une fois, je renvoie vers les intelligences gérer. Multiples. Quand on a des enfants et qui semblent atypiques comme ça, faut vous dire que on est tous intelligents et on comprend tout ce qui se passe autour de nous, sauf que on ne le comprend pas de la même façon, avec les mêmes outils et sous la même forme. Et donc, quand t'as un enfant qui te paraît perché ou trop excité, c'est pas facile. C'est clair et net que c'est pas facile, mais c'est possible. C'est juste qu'il faut avoir les outils.
Oui, mais
pour
regarde,
ça, il faut aller à l'information, quoi. Il faut chercher l'info.
Oui, mais Sarah, regarde, si tu ne travailles pas ton intérieur, tu ne peux pas supporter ce genre de choses.
Tu ne peux pas t'occuper des autres personnes si tu ne t'occupes pas de toi. Tu ne peux pas être efficace envers les autres si toi-même, tu es mal dans ta peau. Et c'est pour ça que l'introspection, c'est la base. Quoi qu'il arrive dans la vie de n'importe qui, l'introspection, c'est la base parce que ça va te permettre de te gérer et de gérer, du coup, ce qu'il y a autour de toi. Et si tu es au top de toi-même, en toi, c'est encore du vocabulaire caché, mais c'est vrai. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir tout un tas d'outils d'introspection, de remise en question et ce fameux des développement personnel avec tous ces mots là qu'on disait qui sont devenus à la mode, mais c'est très bien, c'est très très bien.
Coup, c'est rentré dans le
permet d'en parler
plus,
de libérer les choses, que ce soit moins genré, etc. Et ça, c'est.
Puis la honte.
C'est que du bonheur.
Ouais, de culpabiliser surtout.
La honte à gérer parce que c'est ton garçon qui hurle à la mort dans une salle.
Tout de suite, on regarde la mère.
Ouais.
Hein, pas forcément le père, on va
regarder
la mère.
Ouais. Donc, alors, si on terminait sur une fin positive, et puis un conseil pour celles qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans tout ce qu'on a raconté.
Moi, je pense que j'aurais aimé rencontrer d'autres personnes à cette époque-là, quand même. Et en parler et tout, c'était pas encore ça. Hein. Puis il y a des solutions, quoi. On peut passer. Rien n'est définitif.
Quand on fait la démarche de sauter le pas, d'en parler, ouais. Et ben on se rend compte qu'il y en a d'autres qui
oui.
Vivent la même chose.
Oh mon Dieu, tout de suite, c'est salvateur, ça.
Ah bah ouais, mais en fait, c'est bien d'en parler. On a un sentiment de légèreté, mais faut sauter le pas.
Faut sauter le pas.
Ça, c'est pas forcément évident.
On va dire. Faut sortir de cette solitude.
Ah oui.
Il faut aller vers les gens qui.
T'es
qui
seule,
te comprennent en fait, qui te comprennent et qui te.
T'es seule au milieu du monde.
Pas, mais qui ne dédramatisent pas, mais plutôt qui te boostent et qui te donnent.
Il faut parler. Le grand.
Ce qu'il faut pour que tu avances.
Il faut dire.
Donc choisissez votre environnement. Très très important.
Oui.
Ah oui. Ouais. Je rejoins les filles, même si on n'a pas vécu le même surmenage. Moi, ce qui a été vraiment sauveur pour moi, c'était savoir demander de l'aide aussi. Et le premier pas toujours c'est d'en parler, admettre, en parler et demander de l'aide pour actionner le changement.
Bah moi j'ai déjà demandé de l'aide à ma généraliste, ça m'a fait beaucoup de bien de lui en parler, elle m'a conseillé un psy, donc ça fait du bien et j'avais ce cliché, le psy.
Alors pour toi ou pour le petit?
Pour moi.
Parce que moi je dis les deux. Hein.
les deux. Si, il a un rendez-vous la semaine prochaine aussi. Mais pour moi aussi, parce que ça faisait du bien
d'en
parler. J'avais ce cliché de un psy, on va dire que j'ai pas un bon état. Voilà, la honte, j'ai pas un bon état mental.
Jusqu'à maintenant, on l'entend.
Ça fait du bien.
Jusqu'à maintenant, on entend ça.
Je me suis toujours posé la question, mais. J'ai quoi comme outil pour aller mieux? Et eh ben, la psy m'en donne.
Là, tu vois. Donc en parler, sortir de son isolement, bien être bien entouré, et puis loi de l'attraction.
Loi de l'attraction et tout passe. Non mais ça c'est
ma grand-mère. Rien n'est figé dans le temps, rien n'est définitif.
Ma belle-mère et ma grand-mère, elle disait en arabe, elle disait. Tout passe. Au début, je dis, elle m'énerve avec son tout passe. Mais en fait, c'est la vérité. Il y a rien qui va. Les moments de crise, ce sont des crises. Ça commence et ça finit.
Pour récapituler l'épisode, il est possible de se lancer dans une transition écologique sans devenir dépressive et je te le recommande parce que sincèrement, avoir un intérieur assez simple et avoir une consommation assez simple va épurer ton cerveau et va diminuer plus ta charge mentale. On a aussi défini la sophrologie qui est une technique qui va te permettre de te relaxer, certes, mais qui va te permettre aussi de t'aligner avec tes valeurs pour être épanoui au quotidien. Et puis, nous avons parlé de burn-out parental, de cette gêne quand ton enfant fait que crier et tu te rends compte que il n'y a pas que toi qui as subi, mais tout ton entourage, tous tes enfants ont subi aussi ces moments de crise et que eh bien il aurait été plus profitable, plus bénéfique de lâcher prise sur certaines choses et de ne pas vouloir contrôler le quotidien de A à Z. On a vu que perdre ses repères pouvait compliquer la vie aussi d'un enfant comme d'un adulte et donc dans tous les cas découler sur un mal-être au quotidien et que par moments on peut avoir un passé très compliqué et puis le jour où on trouve son ikigai, pouf, tout devient clair, limpide et on devient heureux. On a aussi rappelé que le plus difficile c'était le premier pas, le plus difficile c'était de se lancer et demander de l'aide et dire que là j'en ai marre, faut vraiment que ça change, mais qu'ensuite ça va tout seul, ça roule. En tout cas, même si tu peux rencontrer des difficultés, des obstacles, n'empêche que ta motivation et ta détermination à te sortir de cette phase difficile de ce burn-out est plus forte que tout. Et quand tu seras bien dans ta place à faire ce que tu aimes faire, tu te rendras compte que tu es heureuse et que avant clairement tu ne l'étais pas et que c'est triste d'être mal dans sa peau au quotidien malgré cette pensée limitante qu'on a tous sur laquelle on a grandi, c'est-à-dire que le travail c'est difficile, que la vie c'est difficile, que c'est difficile pour tout le monde et que c'est normal. Non, il y a des gens qui sont heureux, c'est juste que voilà, à un moment donné, il faut que tu dises c'est bon, c'est fini, je sors de là, je vais demander de l'aide, je vais aller chercher des outils et je vais prendre soin de moi parce que c'est en prenant soin de toi et c'est en étant au taquet au quotidien que tu peux prendre soin des autres, de ceux que tu aimes. Alors si toi aussi tu sens que tu es prête à faire ce premier pas, tu sens que que c'est le moment, que là t'en peux plus, que tu en as marre d'être dans cette fatigue, dans ce stress, de subir ton quotidien et de ne pas en profiter. Si tu as envie de retrouver ton pep, si tu as envie de recharger tes batteries, si tu as envie de retrouver ta motivation et mettre du sens dans ta vie, réserve ton appel offert. On prendra le temps de parler de toi, de ce que tu affrontes en ce moment et ce que tu peux mettre en place qui va t'aider à remonter la pente, à sortir de ce moment, voilà, qui est naze mais qui n'est pas définitif. Parce que rappelle-toi, rien n'est définitif et tout peut changer. Et quand on est tout en bas, eh bien on ne peut que remonter. Mais il faut que tu prennes cette décision. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux qu'on échange davantage sur cet épisode, je te donne rendez-vous pour le live hebdomadaire. D'ailleurs, je te mets dans le descriptif les liens pour accéder au compte Instagram des filles. La semaine prochaine, je vais commencer à parler naturopathie et comment elle peut t'aider à remonter la pente. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.